Bonjour à tous, je suis Alice Vaché et je vous souhaite la bienvenue dans l'Empreinte. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment les marques d'aujourd'hui s'engagent ou non pour notre planète. Chaque semaine, je reçois donc des start-upers, des PDG de grands groupes ou encore des directeurs de la RSE qui m'expliquent comment leur entreprise s'engage pour porter une révolution de l'impact sur notre planète. Dans ce nouvel épisode de l'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Salimon, le CEO de BMW Group France, le célèbre groupe automobile allemand. Et j'ai hâte de découvrir ce que tu vas me raconter là-dessus. C'est un secteur qu'on a couvert en partie, mais c'était sur des startups de mobilité durable déjà. Donc, j'ai hâte que tu me racontes tout ça.
Bonjour Alice, merci de me recevoir. J'ai hâte d'échanger avec toi aussi.
J'ai plein de questions. J'ai plein de questions, aller. Mais déjà, comment va le secteur ? C'est peut-être intéressant de savoir, de se repencher sur le secteur aujourd'hui.
Le secteur automobile est un petit peu déstabilisé parce qu'il y a eu un certain nombre de choses. Tout le monde a connu la pandémie.
Donc la pandémie a impacté le secteur.
La pandémie a impacté la production sur le secteur. Et un deuxième élément, c'est qu'il y a eu des semi-conducteurs, notamment toute la chaîne amont. Par contre, pour le BMW Group, ça se passe très, très bien, puisque BMW, le BMW Group est leader dans le monde. De l'automobile premium, exactement. La marque BMW est leader sur le segment premium quand on regarde que la marque. Et le BMW Group France est également leader des véhicules premium en France. Donc ça va plutôt bien, on a gagné des parts de marché. On a réussi à faire une année record, ce qui est assez phénoménal, une année record pour BMW Motorrad, les deux roues, en France. Une année, un all-time high en fait, un niveau de réalisation qui n'a jamais été atteint auparavant. Idem pour Mini. Et pour BMW, on est sur une période de transition entre l'année de pandémie qui a été l'année 2020 et une année normale qu'on récupérera l'année prochaine, mais on ne sera pas très très loin. Donc l'activité va plutôt bien.
Tu le vois, et d'ailleurs c'est aussi pour ça que tu es là, pour en parler. Il y a une énorme prise de conscience écologique et une urgence au-delà de la prise de conscience. Tout le monde doit agir, toutes les entreprises, vous les premiers, puisque l'automobile c'est je ne sais plus, c'est 6%, 6 à 9% des émissions de CO2.
Alors, tout dépend ce qu'on prend.
Exactement.
Si on parle du CO2, si on parle des particules,
c'est pour ça que Greenpeace, elle l'a estimé à 9, mais c'est entre 6 et 9, ça dépend. En effet, mais bon, ça n'a pas une empreinte neutre, et ça, tu le sais, on en parlait. Mais comment tu expliques finalement cette croissance, alors qu'il y a une prise de conscience, on est schizophrène, ou en fait, vous faites mieux? C'est peut-être aussi ça.
Alors, sur le marché de l'automobile, en fait, il y a un besoin de la mobilité individuelle. On peut prendre l'automobile comme bouc émissaire, parce que tout le monde est passionné de l'automobile, on en parlait tout à l'heure. On est tous intéressés par l'automobile, plus ou moins, de par son enfance, etc. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a toujours eu un besoin de mobilité individuelle, et ce besoin a été renforcé par la pandémie. Et on voit bien, dans les outils de mobilité aujourd'hui, tous les secteurs se développent, positivement, sauf les transports en commun. Parce qu'il y a une crainte, de transport en commun. Il y a un besoin de se retrouver seul dans un, ou en petit comité dans un outil de mobilité. Donc, c'est la raison pour laquelle, finalement, le secteur de l'automobile se porte plutôt pas mal, même si le marché français qui tourne en général autour de 2 millions de voitures, aujourd'hui il est à 1,6 million, mais c'est plus lié à des problèmes de production.
Mais c'est pas la demande.
La demande elle est là, et si tu vois les niveaux de commandes, en fait,
presque.
On est dans des... Alors, on va revenir sur le sujet, mais on est dans des niveaux de demande qui sont quasiment normaux. Après, il faut qu'on arrive à produire. Et le deuxième élément, c'est que c'est vrai que pour toi, je ne sais pas où tu habites, je ne veux pas savoir où tu habites, mais en étant dans Paris avec un système de transport en commun, ou même, on sait que la mobilité la plus durable, c'est celle qu'on ne fait pas. Donc, le fait de rester chez soi, ou le fait de marcher, le fait d'aller chercher sa baguette à pied, c'est très bien. Et moi, je le promeux en permanence. C'est ce que je dis à mes clients ou mes partenaires en permanence. C'est si vous pouvez aller chercher votre baguette de pain à pied, faites-le. Si vous pouvez aller travailler en vélo ou en trottinette, faites-le. Et d'ailleurs, l'année dernière, moi, j'ai vendu en France environ un millier de véhicules à assistance électrique. Donc, on travaille sur la mobilité durable, le BMW Group, au-delà de la voiture et au-delà de la moto. Mais il faut bien se dire qu'une grande partie de la population est en dehors des grandes villes ou est dans une situation... Moi, j'habite en banlieue, je ne suis pas à Paris. Je viens souvent dans Paris, mais le système de transport en commun ne me permet pas de venir à mes rendez-vous de manière efficiente en transport en commun. Donc, j'ai besoin d'une voiture. travaillons pour faire en sorte que cette mobilité soit durable et que les constructeurs, et en l'occurrence, c'est ce que fait le BMW Group, depuis 50 ans, ça ne date pas d'hier, tu dis qu'il y a une urgence, mais l'urgence, elle ne date pas d'aujourd'hui. L'urgence, elle date déjà de plusieurs années. Et maintenant, il faut s'engager de manière ferme. Le BMW Group, il y a 50 ans, il a créé sa direction du développement durable en 1973. Le BMW Group, il a mis sa première voiture 100% électrique à la route aux Jeux Olympiques de Munich en 1972. Moi, ça fait 26 ans que je travaille dans le BMW Group en France. Il y a 20 ans, au début des années 2000, j'ai conduit une série 7 électrique, pardon, une série 7 hydrogène. Donc, on travaillait sur cette technologie. Ce qui est certain, c'est qu'il faut pouvoir répondre à cette... On a besoin d'une mobilité, on a besoin d'une mobilité individuelle, mais il faut que cette mobilité individuelle soit durable et les constructeurs doivent le proposer avec des partenaires, on ne va pas le faire tout seul, avec les pouvoirs publics, avec les gouvernements, avec les startups. Je dis qu'on était partenaire du MoveLab. Et le BMW Group le fait et ne le fait pas depuis hier, on le fait depuis 50 ans. Et c'est pour ça qu'on est en avance aujourd'hui.
Mais là, tu me parles d'électrique, mais on sait bien que les batteries, ce n'est quand même pas une solution.
Alors, les batteries sont une solution, il faut simplement le faire de manière intelligente. Et je vais même aller plus loin, et si je suis trop compliqué, tu me le dis,
non,
tu mets une claque,
et je reprendrai
le thème. En fait, aujourd'hui, tout le monde est polarisé sur l'usage de la voiture, quelle est la pollution ou quelles sont les émissions de CO2 générées à l'usage de la voiture.
T'as des chiffres?
Alors, j'ai des chiffres, oui. C'est, par exemple, les objectifs d'émissions de CO2 qui sont fixés par la communauté européenne depuis l'année dernière. En fait, la communauté européenne fixe un certain nombre d'objectifs et chaque constructeur a essayé d'atteindre cet objectif. Les objectifs sont individuels en fonction des constructeurs. Certains n'ont pas réussi à les atteindre. D'autres ont tout juste atteint, et je vais citer personne, c'est pas à peine de me demander les chiffres pour les autres.
On cite personne ici.
D'autres ont juste réussi à atteindre leurs objectifs. Nous, on avait un objectif de 104 grammes de CO2 par kilomètre sur la totalité de notre flotte et on a atteint 99 grammes. On aurait pu se dire, allez, on va faire du 103,9, comme ça, on va garder un petit peu de marge de manœuvre pour 2021. Non, allez, j'ai pas les chiffres 2021, ça, c'est 2020.
D'ailleurs, les objectifs, tu les as pour 2022?
Alors, on va pas. En fait, aujourd'hui, ils sont pas. On va pas communiquer dessus, en fait, parce que l'important, et c'est là que c'est sur ce point que je voulais venir, c'est que tout le monde est focalisé sur l'usage, même les pouvoirs publics, même la réglementation. Or, l'usage, c'est qu'une partie de problématique.
C'est la construction.
Et la solution, elle vient pas que la construction. Tu as parlé des batteries tout à l'heure et du recyclage des batteries, mais c'est aussi l'extraction des ressources. C'est aussi c'est la totalité de l'écosystème.
Bien sûr.
Et c'est pour ça que...
Et même scope 1, scope 2, scope 3, avec tes partenaires, tes fournisseurs.
Avec les partenaires, exactement. Et c'est pour ça que le BMW Group est le seul constructeur automobile à dire arrêtons de ne parler que de l'usage. Oui, il faut parler de l'usage, vous avez entièrement raison. Mais arrêtons de ne parler que de l'usage. Parlons de la totalité de l'écosystème, de l'extraction des terres rares, de l'extraction des ressources, jusqu'au recyclage des batteries. Et aujourd'hui, on se fixe des objectifs. On a fixé un objectif de 40% de baisse d'émissions de CO2 entre 2019 et 2030. Et ces 40%, on va le faire avec les fournisseurs, avec les partenaires. C'est 20% en amont, avec au niveau de la production des cellules. On va le faire avec de l'énergie renouvelable. Au niveau de la production de l'aluminium, on le fait avec de l'énergie renouvelable. Ensuite, au niveau de la production, et là on se fixe un objectif de baisse de 80% des émissions de CO2 entre 2019 et 2030. Comment fait-on? Mais aujourd'hui, toutes les usines...
C'est bien, tu te poses mes questions.
Non, mais toutes les usines du BMW Group sont alimentées avec de l'énergie renouvelable. Alors, en fonction des régions, ça va être différent. À Leipzig, il y a du vent, on a des éoliennes.
Et d'autres, c'est du solaire.
C'est du solaire, effectivement, en Chine, parce qu'il y a pas mal de soleil là où sont les usines. Aux États-Unis, on a la plus grosse usine du monde, qui est à Spartanburg, aux États-Unis. Là, il y a de l'hydraulique. On a de l'eau, on en profite. Et donc, toutes les usines sont alimentées avec de l'énergie renouvelable. Et on va même plus loin, c'est que depuis la fin de l'année 2021, l'ensemble de nos usines sont neutres en carbone. Donc, on tient compte de l'aspect production. Et on travaille avec des ONG, effectivement, pour faire en sorte d'équilibrer les émissions de CO2 qui sont produites en faisant baisser les émissions de CO2 sur d'autres régions. Ensuite, à l'usage, bien évidemment, il faut baisser les émissions de CO2 à l'utilisation des véhicules. Et là, on le fait en électrifiant la gamme. Aujourd'hui, je suis persuadé que tu ne connais pas les chiffres, parce que c'est normal et ils sont un petit peu confidentiels, mais je suis là pour en parler. 30% de nos ventes en France sont des ventes de véhicules électrifiés.
Et par rapport aux autres années, ça a aussi un essor de combien de...
L'année dernière, on était à 20%, un petit peu moins de 20%. Donc ça augmente de manière très significative. Et en 2030, on s'est engagé à avoir 50% de nos ventes mondiales qui soient totalement électriques, pas uniquement électrifiées. Quand je parle électrifiées, c'est de l'hybride rechargeable et du 100% électrique. En 2030, 50% de nos ventes seront des véhicules 100% électriques.
Et en termes de prix pour le consommateur, c'est plus cher, j'imagine, parce que le problème, c'est aussi l'inclusion, non ?
Alors, en réalité, en fait, tu as deux choses. Tu as le prix d'achat de la voiture. Et effectivement, facialement, le prix d'achat des voitures électriques peut paraître plus élevé que le prix d'achat d'une voiture thermique. En réalité, et notamment pour les marques premium comme BMW, comme Mini, comme BMW Motorrad, on parle de coût de détention. Et le coût de détention, c'est quoi ? C'est la différence entre ton prix d'achat et ton prix de revente. Et en l'occurrence, on se rend compte, et je vais te donner des exemples, que la différence de coût d'utilisation entre une voiture thermique et une voiture électrique n'est pas si importante. Pour une Mini, je vais te prendre un exemple, une Mini 3 portes, qui est la voiture qu'on vend le plus dans la gamme Mini, en thermique, on la vend 295€ par mois. Et ça sans apport, tu arrives en concession, tu prends la voiture, tu la choisis, tu l'achètes, tu la loues en fait tout simplement. Donc 295€ par mois. Pour une Mini 100% électrique, donc la même mais en 100% électrique, c'est 325€. Donc pour 30€ par mois, alors c'est 8% de coûts supplémentaires, mais pour 30€ de plus, tu peux rouler en 100% électrique. Donc finalement...
Et puis il n'y a pas l'essence, tu n'as pas le coût de l'essence du coup.
Alors en plus... T'as souvent des remises en termes d'assurance.
Oui, c'est vrai. C'est encouragé par l'État, donc t'as des aides aussi à...
Alors, les aides sont comprises dans le coût de détention. Et effectivement, t'as pas l'essence. Et l'avantage de l'électrique, c'est, en termes d'essence, c'est que, un, effectivement, ça te coûte moins cher en termes d'énergie pour mouvoir ta voiture. Et deux, t'as pas besoin d'aller dans une station-service. Et on sait que l'expérience dans les stations-service sont pas toujours exceptionnelles. Donc, je t'ai parlé de la chaîne amont, de la production, de l'usage. Et... Tu me posais la question par rapport au recyclage des batteries.
Oui, ça c'est vraiment une question, mais que tout le monde se pose, hein, vraiment. Hein.
Il est clé, c'est vraiment un sujet clé. Et nous, on a développé cette stratégie, cette nouvelle stratégie de mobilité durable depuis 2007, depuis 15 ans. Donc, on a créé notre première usine pour développer la première BMW 100% électrique. On l'a ouverte en 2012, la voiture est sortie en 2013, donc on a plus de 10 ans de recul. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a des solutions de recyclage des batteries. Et on a deux solutions pratiques aujourd'hui qui existent. La première, c'est qu'on travaille avec une start-up. On a besoin de travailler avec
Bien
des tiers.
Sûr.
Qui s'appelle Düsenfeld, qui est une start-up allemande et qui a trouvé des solutions...
Ça sonne très allemand.
qui a trouvé des solutions techniques pour pouvoir recycler 96% de la batterie. Il y a quelques pièces plastiques qu'on n'arrive pas encore à recycler. Mais avec le temps, on va réussir.
Comme toutes les autres industries se mettent sur le plastique, elles vont peut-être trouver des solutions pour le recycler.
Tout à fait, on va trouver des solutions.
C'est main dans la main aujourd'hui. Hein.
Aujourd'hui, on recycle 96% de nos batteries. Et la deuxième solution qu'on a implémentée dès l'ouverture de l'usine avec les éoliennes, tu sais, l'usine de Leipzig, c'est qu'on sait que l'énergie renouvelable, c'est très bien, mais c'est irrégulier. Quand il y a du vent, on a beaucoup de ressources et parfois on n'a pas besoin de toute cette ressource. Et parfois, on a besoin de ressources, mais il n'y a pas de vent, donc on manque d'énergie.
Donc tu la stockes ?
Eh bien, c'est du stockage, exactement. On a une ferme de stockage de ces batteries de deuxième vie, qui ne sont pas des anciennes batteries, elles ont une capacité, mais pas suffisamment pour mouvoir une voiture. Eh bien, on stocke l'énergie dans ces batteries pour pouvoir la réutiliser. Donc, la solution existe, les solutions existent. Il faut simplement qu'on travaille tous ensemble. Il ne faut pas qu'on ait la vue uniquement via le petit œil de la lorgnette du Parisien intramuros qui a les solutions de transport en commun. Il faut résoudre le problème de la mobilité et on a les solutions pour les résoudre.
Bien sûr, non, mais ça, je suis entièrement d'accord et c'est vrai qu'on oublie. Alors moi, j'oublie pas, mais beaucoup oublient en effet ceux qui ont besoin de voitures pour se mouvoir et pas uniquement pour aller chercher la baguette de pain, pour aller travailler. Et puis aussi ceux qui aiment les voitures, on peut pas non plus les empêcher d'aimer la voiture. Donc si on peut la rendre la plus verte possible, aujourd'hui, est-ce que tu penses que ce serait possible dans un monde de bisounours, d'avoir une voiture 100% neutre en carbone?
Il faut qu'on travaille avec cette vision. Et le BMW Group travaille avec cette vision. Je ne vais pas parler pour les autres.
Promis, j'irai m'acheter la voiture si elle
existe. Mais on a présenté, on se donne rendez-vous en 2040. On a présenté un concept, ce qu'on appelle une vision dans le BMW Group, au Salon de Munich, donc au mois de septembre l'année dernière, qui est une voiture 100% recyclable et 100% recyclé. Parce que quand on parle de la maîtrise de l'écosystème...
Oui, parce qu'il y a les déchets en plus.
Exactement. Il faut réutiliser au maximum les matières qui nous permettent de produire nos solutions de mobilité. Et pour ça, on travaille sur cette solution. On a déjà commencé à proposer, à présenter un concept, cette vision, qui montre qu'on est dans la bonne direction. Et cette direction, on a commencé à travailler dessus parce que on a la BMW i3 qu'on a sortie en octobre 2013, justement, avait déjà un certain nombre d'organes recyclés dans son véhicule, les tapis de sol. C'est simplement du fil de pêche de plastique recyclé. Les sièges, ce sont des bouteilles en plastique recyclé. Aujourd'hui, dans tout notre cycle de production, 30% de l'aluminium est déjà de l'aluminium recyclé. Et on s'engage à atteindre les 50% en 2025. Donc, aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé à ton rêve de cette voiture neutre en carbone.
C'est pas si loin,
mais 2040, c'est demain.
Ouais.
Et si on commence pas à travailler aujourd'hui et à avancer aujourd'hui avec tout le monde, pas tout seul, parce qu'on est une partie de la solution, mais on n'arrivera pas à implémenter cette solution totalement seul. Mais en travaillant, en avançant tout de suite, eh bien, on aura la solution pour les années à venir. On s'est engagé à respecter les accords de Paris. On travaille avec nos fournisseurs, tu parlais des partenaires. On demande à nos fournisseurs de s'engager aussi sur le respect de ces 1,5 degrés. Et en travaillant tous ensemble, on y arrivera.
Et c'est quoi aujourd'hui tes principaux obstacles, si tu en as ?
Alors, en fait, on rencontre beaucoup d'obstacles généraux, globaux. Mais je crois que aujourd'hui, un des principaux obstacles, c'est d'avoir une approche punitive de la mobilité. Et tant qu'on n'arrivera pas à avoir une approche plutôt favorable, positive, incitative de cette mobilité, on se dira toujours, on a besoin d'un bouc émissaire. Le bouc émissaire, c'est la bagnole, et la bagnole, ça pollue. On organise un cycle de conférences aujourd'hui qui s'appelle le Reimagine Tour. On a eu une première étape à Paris, et ce qu'on souhaite, c'est mettre tout le monde autour de la table, mettre les startups, mettre les pouvoirs publics, mettre les agglomérations. Eh bien, développons des technologies qui permettent de répondre à une partie des besoins. Et aujourd'hui, on a proposé, c'est ce qu'on présente notamment à nos partenaires municipaux, on a une technologie qu'on a développée qui est exclusive dans le BMW Group qui s'appelle le eDrive Zone, qui est une solution pour un hybride rechargeable. Donc un hybride rechargeable, c'est une voiture qui te permet d'avoir un moteur électrique et un moteur thermique. Donc, tu as suffisamment d'autonomie.
Mais ça fait deux fois plus de moteurs, là.
Alors, ça fait deux moteurs dans la voiture, mais le moteur électrique aide le moteur thermique à mouvoir la voiture. Donc, ça permet d'économiser de l'essence, de baisser la consommation d'essence du véhicule.
Mais tu produis deux moteurs.
Tu produis deux moteurs, c'est vrai.
Donc, c'est plus impactant.
Sauf si tu les recycles. Sauf si tu arrives
ça reste encore
dans ton
notre
écosystème.
C'est ça.
Mais, alors, en fait, c'est une solution transitoire. Et tu as raison, c'est qu'il y a deux fois plus de moteurs, mais si le moteur électrique est régulièrement rechargé, il te permet d'économiser des émissions de CO2, de baisser ta consommation d'essence. Et donc, c'est tout à fait positif. Et
donc là, c'est une bien utilisé pour ceux qui ne veulent pas aller dans l'électrique tout de suite.
Non, en fait, c'est une solution pour, tu parlais des freins.
Ouais,
notamment
ouais.
pour le développement de la mobilité 100% électrique.
Ouais.
D'abord, la mobilité 100% électrique, il faut que ce soit une mobilité 100% électrique sur la totalité de l'écosystème, qu'on intègre la production, la supply chain, etc. Et ensuite, il faut que les gens puissent se recharger. Et on sait qu'aujourd'hui, on a un problème d'infrastructure. On sait que le gouvernement s'était engagé à développer 100 000 bornes à fin 2021. On est bon an mal an à 45 000 bornes. Donc, il y a un petit peu de complications.
Hein, donc,
c'est
un petit message.
C'est la raison pour laquelle le BMW Group a lancé une voiture 100% électrique en 2013. On a continué à développer notre gamme. On a 5 modèles et on continue à en lancer l'année prochaine. Mais pour cette période de transition, on a développé environ 12-13 modèles hybrides rechargeables qui te permettent à la fois de baisser tes consommations, donc tes émissions de CO2, mais de ne pas dépendre totalement des solutions de recharge, donc de te recharger essentiellement chez toi.
C'est une solution transitoire. C'est
exactement, c'est la solution qui permet de passer du 100% thermique au 100% électrique. Et pour faire en sorte que les utilisateurs de nos véhicules hybrides rechargeables rechargent leurs véhicules régulièrement, On a développé cette technologie qui fait que quand l'utilisateur, avec son hybride rechargeable, donc il a son moteur thermique et son moteur 100% électrique, il est en thermique parce qu'il arrive dans Paris. Moi, je viens de ma banlieue, j'arrive dans Paris, je rentre dans la zone à faible émission, donc à l'intérieur du périph, je passe automatiquement, ma voiture va passer automatiquement en 100% électrique. Ça a deux vertus. Un, quand je rentre dans Paris, je suis en zéro émission.
Donc, du coup, en plus, je pollue pas
d'émission de particules. Exactement. Et deuxième vertu, c'est ça me force, ça m'oblige, ça me sensibilise au fait de recharger ma voiture. Parce que si j'ai pas de batterie, je peux pas basculer en 100% électrique. Et on a même été plus loin, je te parlais de l'approche incitative. On a été plus loin, on a créé un système de fidélité qui s'appelle le BMW Points. Et en fait, à chaque fois qu'un de nos clients roule en 100% électrique, il gagne des points. Et à chaque fois, avec ces points, il gagne des possibilités de recharge gratuite sur notre système de recharge électrique qui s'appelle BMW Charging ou Mini Charging. Et donc, ça a là aussi une vertu, c'est que ça incite positivement nos utilisateurs, nos conducteurs à recharger leur voiture.
Je trouve ça très bien et c'est ce que j'allais te dire. Là, on parle des écolos convaincus qui vont tout de suite s'acheter une électrique, mais il y a plein de personnes, et notamment des utilisateurs de voitures, qui ne sont pas du tout sensibilisés à ça, et ni sensibles. Et c'est hyper important et je trouve ça vraiment top que vous puissiez, vous, sensibiliser vos clients ou vos prospects ou autres à ces sujets-là. C'est hyper important et c'est pour ça que toutes les marques doivent incarner ces sujets-là. On a abordé plein de sujets, mais comme le temps nous est compté. Est-ce que tu aurais encore envie de nous ajouter, d'ajouter quelque chose, de dire quelque chose à nos auditeurs?
Non, moi, je voudrais d'abord, je te remercie de m'avoir invité, Alice, ça a été un grand plaisir. Et je crois, encore une fois, c'est pas ajouter quelque chose, mais revenir sur un point très important, c'est que les constructeurs ne sont pas un problème par rapport à la mobilité. En fait, on est une partie de la solution et cette solution se bâtit, se développe avec l'ensemble des intervenants et on peut pas regarder uniquement par le petit bout de la lorgnette. Il faut vraiment tenir compte des besoins de chacun et que la solution est là, la mobilité est nécessaire. Travaillons ensemble pour faire en sorte de respecter notre planète. Tu sais, j'ai 3 enfants. Tu parlais tout à l'heure de l'automobile, on aime tous l'automobile. Mais j'ai un garçon qui a 26 ans qui aime bien l'automobile passion. Et j'ai 2 filles qui ont 24 et 21 ans qui aiment bien, qui ont besoin de l'automobile. J'en ai une qui travaille à Thoiry, aux eaux de Thoiry. Il n'y a pas beaucoup de transports en commun pour y aller. Donc, elle a besoin de sa voiture. Mais elle veut une mobilité durable parce qu'elle a besoin d'une automobile raison. Eh bien, travaillons, et c'est ce que fait le BMW Group, pour conjuguer cette automobile passion à l'automobile raison. Et j'irai même plus loin, c'est à la mobilité raison, parce qu'il n'y a pas que l'automobile. Il y a le vélo, il y a le scooter, il y a des nouvelles technologies. Je ne veux pas repartir sur d'autres concepts qu'on a présentés à Munich aussi, mais qui sont des concepts qui permettent vraiment de concilier une mobilité durable, parce qu'on en a besoin, mais on a aussi besoin de protéger les générations futures.
Merci Vincent.
Merci Alice.
Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.